Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, massacre de 32 civils peuls dans un village de la région de Mopti.
Deux morts et plus de 150 blessés. Tel est maintenant le bilan de l'attaque à la grenade de samedi contre une réunion publique du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.
En Turquie, réélection hier du président Recep Tayyip Erdogan dès le premier tour.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde pour l'instant, l'actualité en Afrique et dans le reste du monde.
En République démocratique du Congo, un important virage a été amorcé dans le processus électoral avec l'ouverture dimanche dans tout le pays de bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation provinciale. Pendant 15 jours, les candidats ou leurs délégués sont attendus avec leurs dossiers en vue des élections provinciales qui seront couplées avec la présidentielle et les législatives nationales le 23 décembre prochain. Mais l'UDPS, principal parti d'opposition, pose quelques conditions avant de déposer ses listes. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au total, 171 bureaux de la Commission électorale nationale indépendante ont été ouverts pour recevoir jusqu'au 8 juillet prochain les dossiers des candidats députés provinciaux. Et dès le premier jour, certains partis politiques comme le PPRD, parti au pouvoir, ont pris d'assaut les 6 bureaux de réception et de traitement des candidatures que compte la ville de Kinshasa pour déposer les dossiers de leurs candidats. Si d'autres partis et regroupements politiques ont promis de faire de même dès ce début de semaine, l'UDPS Tshisekedi, lui, pose quelques conditions. Nos listes sont déjà prête. Mais nous avons posé des préalables en amont. Il faut que la CENI clarifie la question de la machine à voter que nous rejetons avec force et celle du fichier électoral corrompu et qu'il faille corriger, a indiqué Jean-Marc Kabunda Kabund, le secrétaire général du parti de Félix Tshisekedi. La Commission électorale nationale indépendante, elle rappelle que sans la machine à voter, il ne pourrait y avoir élection le 23 décembre courant. Dans un mois, soit le 25 juillet 2018, sera lancée la même opération, mais pour les élections législatives nationales et l'élection présidentielle. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Mali, une trentaine de civils peuls ont été froidement abattus par des milices d'Ozo et leurs complices dans le village de Koumaga, cercle de Djéné, dans la région de Mopti. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
Des bergers, des très jeunes enfants avec leurs animaux en brousse, des personnes revenues de l'exode rural pour cultiver leurs champs ont été assassinés dans le village de Koumaga, cercle de Djéné, région de Mopti. Ils sont au moins 32 civils peuls qui ont été tués le samedi dernier dans la localité de Koumaga. Les habitants étaient sous le choc de cet acte qu'ils qualifient de barbare. Selon les rescapés de l'attaque, les hommes en armes en question portaient des habits de chasseurs traditionnels communément appelés les dozo. Pour d'autres villages de Koumaga, il s'agit bien des militaires habillés avec des tenues de chasseurs et des chaussures de soldats. Quant au responsable de Capital Poulapo, les amis de la culture Peul, il se posait des questions sur l'identité réelle de ces assaillants. Des militaires ont été déployés dans la zone de Koumaga afin d'éviter d'autres affrontements ou attaques. Le village en question est aussi accusé d'abriter des djihadistes. Cependant, toutes les personnes tuées sont des innocents qui n'ont rien à voir avec le djihadisme, souligne Abdelaziz Diallo, président du Capital Poulapo. Aux dernières nouvelles, une enquête a été ouverte par le gouvernement malien afin de situer les responsabilités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Éthiopie, le bilan de l'attaque à la grenade de samedi contre une réunion publique du premier ministre Abiy Ahmed est passé hier à 2 morts et plus de 150 blessés. Le point avec Jean-Roger Bion.
Amir Aman, le ministre éthiopien de la Santé, a annoncé hier qu'une autre personne a perdu la vie après l'attaque de samedi. L'explosion a eu lieu alors que le premier ministre Abiy Ahmed venait d'achever son discours devant des dizaines de milliers de personnes à Addis Abeba. Le premier ministre a pu quitter les lieux sains et saufs. Selon la radio d'État, 30 personnes ont été arrêtées ainsi que 9 membres de la police. Le premier ministre a pointé du doigt des groupes qui cherchent à discréditer son programme de réforme. Depuis sa prise de fonction en avril, M. Abiy, âgé de 42 ans, premier chef de gouvernement issu de l'ethnie Oromo, a libéré nombre d'opposants emprisonnés. Il a mis fin à l'état d'urgence et fait le ménage dans l'armée. Sa promesse de rétrocéder à l'Érythrée des portions de territoire a suscité la réprobation des Tigréens très influents dans les cercles du pouvoir avant sa nomination.
Au Zimbabwe, les autorités ont assuré hier que l'attentat à l'explosif qui a visé la veille une réunion de campagne du président Emmerson Mnangagwa n'empêchera pas la tenue des premières élections de l'ère post-Robert Mugabe.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a été réélu hier dès le premier tour pour un nouveau mandat au pouvoir renforcé. Selon les médias turcs, il a obtenu environ 53% des voix contre 31% pour son rival, le social-démocrate Muharrem İnce. Le référendum de 2017, qui a apporté des changements au système politique de la Turquie, a éliminé le poste de premier ministre et donné au président les pouvoirs requis pour dissoudre le Parlement et nommer ses ministres et les juges du pays.
Aux États-Unis, plus de 500 enfants de migrants ont été réunis avec leur famille, mais 2000 autres sont toujours séparés de leurs proches. De nouveau, nous retrouvons ici Idriss Fall.
Le ministère américain de la Santé a annoncé que la police des frontières a réuni 522 enfants étrangers non accompagnés. Selon le communiqué, quelques 2000 mineurs sont toujours éloignés de leurs parents et des avocats travaillant sur ce dossier disent faire face à un labyrinthe. L'administration publie ainsi les premiers chiffres depuis que le président américain a mis fin mercredi à la séparation des enfants de leurs parents arrêtés pour avoir franchi illégalement la frontière avec le Mexique. Plus de 2300 enfants ont été séparés, ce qui avait provoqué un tollé aux États-Unis et dans le monde. Hier, le président américain a encore une fois appelé à plus de fermeté sur l'immigration. Il a écrit sur Twitter « Nous ne pouvons pas autoriser ces personnes à envahir notre pays », ajoutant que quand quelqu'un entre, nous devons immédiatement, sans juge ou décision judiciaire, les renvoyer d'où ils viennent. Fin de citation. Au Congrès, les débats pour réformer les lois sur l'immigration doivent aussi reprendre cette semaine.
Le président américain Donald Trump a lancé un avertissement aux partenaires commerciaux des États-Unis, disant que s'ils n'éliminent pas les restrictions placées sur les produits américains, ils feront face, je cite, à plus que de la réciprocité de la part des États-Unis. C'est ce qu'il a dit hier dans un tweet. M. Trump a déjà irrité les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, dont la Chine, le Canada, le Mexique, l'Union européenne et l'Inde, en imposant des taxes sur les importations d'acier, d'aluminium et autres produits. Et en représailles, la semaine dernière, l'Union européenne a adopté des taxes de plusieurs milliards de dollars sur des importations américaines.
Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, visite la Chine cette semaine au milieu de tensions croissantes au sujet de la politique de Pékin en mer de Chine méridionale, des ventes d'armes américaines à Taïwan et de la guerre commerciale qui se profile à l'horizon. Malgré ces problèmes, M. Mattis compte s'assurer du soutien de la Chine pour amener la Corée du Nord à renoncer à son programme d'armes nucléaires, le principal objectif du sommet que le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont tenu au début du mois à Singapour.
La défense antiaérienne saoudienne a intercepté dimanche deux missiles balistiques tirés d'une zone rebelle au Yémen et visant la capitale saoudienne Riyad, a dit la chaîne de télévision Al-Ekbariya, sans faire de victimes ou de dégâts. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué ces tirs via leur télévision Al-Masira, indiquant qu'ils ont visé le ministère de la Défense à Riyad et que leur objectif a été touché. La coalition anti-Houthi dément que ce ministère ait été touché.
Et maintenant, le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pineau.
Bonjour Lista, bonjour à tous. Nouveau journal de la Coupe du Monde ce matin sur VOA Afrique. Le Sénégal déçu ce matin après son match nul 2-2 contre le Japon. Les Lions de la Teranga qui ont pourtant mené 2 au score avant de se faire rejoindre à chaque fois par les Japonais. Résumé de cette rencontre avec l'envoyé spécial de VOA Afrique à Ekaterinbourg, Amdinsi.
En effet, le Sénégal a ouvert le score par l'intermédiaire de Sadio Mané à la 12e minute. Le capitaine des Lions de la Teranga a profité de mauvais dégagement du portier nippon pour pousser le ballon, mais cette avance du Sénégal sera de courte durée car les Japonais vont remettre les pendules à l'heure à la 34e minute grâce à Uni qui a enrôlé sa frappe au petit filet opposé. À la reprise, les Japonais, grâce à un jeu léché, vont malmener les Lions de la Teranga. Les samouraïs bleus vont passer à plusieurs reprises à côté du deuxième but, mais contre toute attente, le Sénégal réussira à passer devant grâce à Moussa Wagé à la 71e minute, mais les Japonais feront tout pour revenir au score. score. À force d'attaquer, ils vont revenir à la hauteur du Sénégal grâce à un but de Honda. Avec ce nul de 2 buts partout, le groupe H est complètement relancé. Etekenburg, Amédine Sy, Voix d'Afrique.
Merci Amédine. Ce matin dans ce groupe H, le Sénégal est premier, ex aequo avec le Japon, 4 points chacun. La Colombie est troisième avec 3 points après sa victoire 3-0 hier soir face à la Pologne qui est éliminée. La prochaine rencontre Sénégal-Colombie sera décisive. Le Sénégal peut se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de match nul ou de victoire. Pour cela, il faudra montrer un autre visage plus conquérant comme le reconnaît le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse. On écoute Aliou Cissé.
Forcément, il y a des regrets, mais force est de constater aussi qu'on n'a pas vu un grand Sénégal non plus. Mais malgré ça, malgré que c'est pas un grand Sénégal, je crois qu'on a mené deux fois dans cette rencontre-là. Et puis bon, ce qui me dérange un petit peu, c'est les buts qu'on a pris un petit peu dans cette rencontre-là. La meilleure équipe sur le terrain était quand même le Japon. Il faut leur concéder ça. Moi, j'y crois. J'ai confiance. Je crois que notre équipe a de la qualité.
À Dakar, les supporters réunis pour regarder le match de leur équipe y croient toujours. C'est l'objectif. J'ai du coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. Le Sénégal qui confirme ses ambitions malgré un nul concédé contre le Japon et l'Afrique qui se rapproche du rachat après l'effondrement en chaîne de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Pour ce match du break entre les deux vainqueurs de la première journée de la poule H, les Lions de la Teranga ont régulièrement fait la course devant, menant logiquement à deux reprises avant de se faire rattraper au Money Time par l'indomptable samouraï japonais Honda, auteur d'un but assassin qui contraint les Africains à rester concentrés pour la suite. Mais l'espoir de qualification au second tour est légitime, tant la production des Lions a été convaincante jusque-là. Leur puissance légendaire, une sérénité étonnante et la facilité avec laquelle ils multipliaient les enchaînements, toujours en situation d'action et non de réaction, rappelle que le Sénégal ne va jamais en Coupe du Monde pour de la figuration. À ceux qui pensent que l'opposition de cette édition russe est moins prestigieuse que celle de 2002, il faut rappeler que les équipes dites moyennes sont plus difficiles à manœuvrer en phase de poule lorsque la profondeur du banc n'est pas encore déterminante. Bref, comme le Nigeria, le Sénégal a encore son destin entre les mains, sauf Katakis, il apparaît toujours comme l'équipe africaine la plus apte à poursuivre sa route. Alors rendez-vous jeudi contre la Colombie. À bientôt.
Dans le groupe F, les jeux sont faits puisque l'Angleterre et la Belgique sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes. Samedi, la Belgique avait éliminé la Tunisie en battant sèchement les Aigles de Carthage, 5-2, grâce notamment à des doublés de Lukaku et de Hazard. Dimanche, les Anglais ont fait mieux en humiliant le Panama, 6-1. Il y avait déjà 5-0 à la mi-temps. Harry Kane, auteur d'un triplé, devient le meilleur buteur de ce tournoi avec 5 réalisations. À suivre ce lundi, la finale du groupe A entre la Russie et l'Uruguay. L'Arabie Saoudite et l'Égypte, toutes deux déjà éliminées, s'affrontent pour un match sans enjeu, sauf pour Essam El Hadary, qui devrait être titulaire dans les buts des Pharaons pour devenir, tenez-vous bien, le joueur le plus vieux de l'histoire à disputer une Coupe du Monde à 45 ans, 5 mois et 10 jours. On rappelle que le bouffon africain est aussi quadruple vainqueur de la CAN. Dans le groupe B, duel à distance entre Portugais et Espagnols pour la première place du groupe, les Portugais champions d'Europe en titre affrontent l'Iran qui peut quand même se qualifier en cas d'une victoire improbable et inattendue face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. À Kaliningrad, le Maroc espérera sortir avec les honneurs face à l'Espagne. C'est le souhait d'Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, déjà éliminé, vous le savez, après deux défaites lors des deux premiers matchs.
Le match de demain est de nouveau un match contre un adversaire d'énorme qualité, donc un match difficile pour nous, qui plus est dans la situation dans laquelle on se retrouve au début de ce match. On va pas tourner en rond pendant plusieurs minutes, on va vous le dire clairement. Pour nous, c'est une injustice d'être déjà éliminé avant ce troisième match, mais il faut accepter la réalité, il faut se concentrer sur ce troisième match et sauver notre honneur, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus que ça à sauver.
De son côté, l'Espagne, championne du monde 2010, retrouve des couleurs malgré le départ de son entraîneur peu avant le début du tournoi. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur le tournoi ce soir sur VOA Afrique. Et vous retrouvez toutes les dernières infos, les résultats sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Sans oublier Sporama, 19h, temps universel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la distribution des cartes d'électeurs biométriques pour la présidentielle du 29 juillet a débuté. Mais ce n'est pas la grande affluence dans les centres de distribution et certains ne parviennent pas à retrouver leurs cartes, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'école de Kandig en commune 3 du district de Bamako a refusé du monde lors de la cérémonie de lancement de distribution des cartes biométriques. Les caractéristiques de cette nouvelle carte ont été dévoilées par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Maman Maïga.
Celui qui n'a pas une carte NINA ne pourra pas avoir une carte d'électeur biométrique. Et nul ne sera admis dans un bureau de vote sans être muni au préalable de cette carte d'électeur biométrique.
À Bamako, 1 197 857 électeurs doivent retirer leur carte avant le 27 juillet, d'où la mobilisation des partis politiques. Racine Cham, vice-président de l'URD.
Pour pouvoir participer à ce rendez-vous, il est important d'avoir sa carte d'électeur et se présenter le 29 au jour du vote pour pouvoir décider de l'avenir de notre pays.
Dans les centres de distribution comme à Mayambougou, il y a peu d'engouement et tout le monde ne retrouve pas sa carte. Alune Ifrandjaï, opérateur culturel.
On cherche chacun à aller retirer nos cartes d'électeur. Moi, je n'ai pas encore pu identifier où se trouve ma carte d'électeur. Bon, on y travaille. Ben, je pense qu'on y sera tous. Les Maliens sont prêts à aller aux élections le 29 juillet. On pense que les élections se feront de façon apaisée. On espère.
Pour faciliter la recherche des cartes d'électeurs biométriques, les organisations de la société civile sont à pied d'œuvre. Mahamadou Kamara, coordinateur de l'association Transformons les Mali.
Moi, je dis aux jeunes, vous vous sentez marginalisé, vous vous sentez exclu, vous n'aimez pas la manière dont vous êtes gouverné pour certains d'entre vous. Allez chercher vos cartes d'électeur. C'est le seul moyen que nous avons pour exprimer un sentiment positif qui soit négatif. Ne cédez pas aux appels à la violence. N'écoutez pas ceux qui vous disent on va prendre la rue si le résultat est ci ou ça. Allez chercher votre carte d'électeur. C'est la seule arme qui doit être celle du citoyen.
L'école AB de Sébéninkoro, avec ses quelques 5000 cartes d'électeur, est le centre du premier citoyen malien. Ibrahim Bouakar Keïta a retiré sa carte d'électeur accompagné de son épouse.
C'est un des actes du parcours et tout citoyen doit avoir sa possession pour l'exercice de son droit fondamental de choisir sa carte d'électeur. Cela à la suite de l'établissement d'un fichier et il est demandé à tout citoyen également de retirer personnellement sa carte d'électeur. Ce que nous venons de faire avec bonheur. Que chacun fasse son mot, absolument.
Le centre de Kenyeba a sa nouvelle carte biométrique. La première avait été incendiée lors des émeutes d'il y a 2 semaines. Monsieur Sangaré, directeur de l'intérieur.
La carte d'électeur biométrique réimprimée du cercle de Kenyaba au nombre de 88 497 pour les 12 communes du cercle de Kenyaba. Elles seront acheminées à destination pour être remises immédiatement au titulaire. Nous voudrions demander à l'ensemble des relations du cercle de Kenyaba de se présenter avec l'une des pièces ci-après. La carte d'identité nationale, la carte NINA, le permis de conduire ou le passeport.
Les retraits des cartes biométriques se poursuivent jusqu'au jour du vote. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria également, on se prépare pour d'importantes échéances électorales. À quelques mois des élections générales et de la présidentielle de 2019, le parti au pouvoir, l'APC, du président Muhammadu Buhari, a tenu son congrès national pendant le week-end à Abuja, où plusieurs centaines de délégués se sont réunis pour élire le nouveau président de leur formation. Compte rendu du correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tamba.
Ils étaient plus de 7000 candidats venus des 36 États du pays réunis à Abuja pour le congrès national du parti au pouvoir APC du président Muhammadu Buhari. C'est le plus grand congrès du parti depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Quelques 5000 policiers ont été déployés dans la capitale fédérale.
Nous avons l'intention de gagner plus d'États qui sont actuellement sous le contrôle du PDP et les ajouter à ceux qui sont déjà sous notre contrôle en vue d'augmenter le nombre d'États de la fédération pour notre parti APC. Et c'est pourquoi nous voulons mobiliser plus de soutien comme nous le faisons pour le président Muhammadu Buhari.
Le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, et son vice-président Yemi Osinbajo étaient présents pour signifier l'importance de ces congrès terminés avec l'élection du nouveau président du parti.
Vous êtes tous importants pour le progrès de notre parti et nous devons tous nous unir pour assurer la victoire aux prochaines élections pour nous permettre de continuer le bon travail que nous sommes en train de faire pour nos compatriotes nigériens.
We have been doing for our fellow
Nigerians.
C'est sans surprise l'ancien gouverneur de l'État d'Edo dans le sud-ouest et ex-secrétaire général de la puissante centrale syndicale des travailleurs, Adams Oshomole, qui a été élu nouveau chef du parti en quelques mois de la présidentielle. Il accuse l'ancien parti au pouvoir, le PDP de Goodluck Jonathan, d'être responsable de la situation qui traverse le Nigeria présentement.
Ce que nous observons aujourd'hui est la conséquence du pillage massif et de l'abus de pouvoir qui a caractérisé les 16 années du pouvoir du PDP. Donc, si vous n'êtes pas content de ce que nous avons accompli, voulez-vous que le Nigeria retourne au jour passé où le seul business dans le pays était de voir des gens qui sont milliardaires et qui n'ont pas d'autres affaires?
Les trois années au pouvoir du premier mandat du président nigérien ont été marquées par des problèmes de santé et de nombreux déplacements à l'étranger pour s'y faire soigner et une grave récession économique. Le parti doit prochainement organiser des primaires pour officiellement désigner son candidat à la présidentielle de 2019 au Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Bénin, Joseph Diogbenou, ancien ministre de la Justice et avocat personnel du président Patrice Talon, est maintenant à la tête de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, pour un mandat de 5 ans. Certains Béninois se demandent si leur président ne vient pas ainsi de s'assurer les moyens de gouverner sans être inquiété, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Joseph Diogbenou, nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin, une rapide ascension de l'homme de la société civile d'hier, que d'aucuns assimilent à un raccourci trop forcé qui pourrait avoir des conséquences néfastes. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, son gouvernement a été accusé de violer de façon répétée les textes fondamentaux. Pour l'Union sociale libérale de Sébastien Adjavon, représenté ici par son chargé de communication, donc la Mabalo, la veille citoyenne doit être permanente.
Depuis 2 ans, le président de la Cour est en conflit avec la Constitution qu'il est appelé aujourd'hui à défendre. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas nous rassurer et il est important d'en parler. Et ce que nous disons, c'est suffisamment clair. Nous en appelons à la vigilance des uns et des autres. Nous ne laisserons pas la Cour prendre des décisions avant l'espoir de juger, puisqu'il faut tenir compte des parcours et des profits de chacun. Mais le parcours de maître Joseph Diogbenou ne nous rassure pas. On ne peut pas nous empêcher de le dire.
Joseph Diogbenou a été désigné contre toute attente par les députés, bien que certains ne comprennent pas les raisons qui ont poussé la représentation nationale a offert par ce choix une majorité confortable au chef de l'État. Les députés espèrent que le jeune président de la Cour se montrera à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise.
Les défis sont énormes. J'ai foi que ce président de la Cour constitutionnelle accomplira dignement sa mission.
C'est un juriste de renom et je suis sûr qu'il va dire le droit. Et je crois que le président Talon n'est pas le premier. Et chaque président a toujours voulu que son homme soit là, mais ce n'est pas une raison pour accompagner nécessairement l'exécutif s'il y a faille. Et il faut aussi penser au peuple.
La Cour constitutionnelle du Bénin, en 25 ans d'existence, a réussi à garantir les acquis de la Conférence nationale de février 90 et a su transcender certaines intrigues pour épargner le Bénin du pire. Mais certains Béninois retiennent tout de même des décisions qui montrent les balbutiements de la Cour malgré son âge avancé.
La décision qui me vient à l'esprit, c'est cette décision où on a estimé que 39 ans plus un jour, à peu de choses près, qui valait à 40 ans. Nous savons clairement que la Constitution a dit 40 ans révolus. Il y a par exemple le revirement spectaculaire de la jurisprudence de la Cour elle-même au sujet donc du droit de grève.
À en croire le constitutionnaliste Ibrahim Salami, l'équipe de la Cour constitutionnelle qui vient de passer le témoin à celle de Diogbenou a été très malheureuse, surtout par les assauts et violations venant du gouvernement Talon.
La Cour Olo a été l'une des cours qui a subi les plus grands assauts, les plus antidémocratiques, durs au niveau démocratique. Et on avait l'impression à un moment donné qu'on voulait en finir avec la Cour. Ces assauts répétés ont été aggravés par le fait que la Cour a été privée de son budget. Et on apprend quelques jours avant l'installation de la nouvelle Cour que le budget a été réapprovisionné. C'est ça la démocratie sans les démocrates.
Le nouveau président de la Cour constitutionnelle mesure tout de même les défis qui l'attendent et promet déjà se mettre au-dessus de toute partialité Joseph Diogbenu.
Il nous échappera pas que la séparation fonctionnelle des pouvoirs ne doit pas être considérée négativement comme une séparation structurelle des émanations ou des incarnations de l'État, au risque de mettre en cause son unité, au risque de mettre en cause sa viabilité, au risque de mettre en cause sa fiabilité.
De Cotonou, Jeanette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Au Togo, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques sera lancé cet après-midi à Lomé. Le MIFA, dédié aux producteurs agricoles, vise à professionnaliser l'agriculture au Togo tout en contribuant à la réduction de la pauvreté dans le pays. Découvrons le MIFA à travers ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Au Togo, l'agriculture occupe plus de 80% de la population et contribue à hauteur de 40% à la richesse du pays. Mais le financement octroyé par les banques et institutions financières à l'agriculture n'est que de 0,2% en 2017. L'assurance agricole n'est pas non plus une réalité dans le pays. Face à ce constat et dans le but de professionnaliser l'agriculture togolaise, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques, MIFA, vient de voir le jour. Aristide Agbosumonde, coordonnateur du MIFA en charge du partenariat.
Le MIFA a principalement pour mission l'élaboration des politiques adaptées au secteur agricole, l'application des outils de gestion des risques visant à attirer les compétences et acteurs clés par le biais d'incitatifs, puis la consolidation des maillons des différentes chaînes de valeur agricole. Donc l'objectif, c'est de transformer l'agriculture pour la rendre résiliente aux chocs et augmenter la productivité. De manière concrète, ce mécanisme va promouvoir les produits financiers et assurantiels qui sont adaptés au secteur agricole.
Ce mécanisme dédié spécialement aux producteurs agricoles suscite des attentes, dont celle de l'association Mieux être pour tous AMET. Mais sans Kossisi Poaka, chef agronome de l'ONG AMET.
Ce que j'attends de MIFA, c'est qu'ils nous mettent en relation avec les financiers. Parce que nous voulons nourrir le Togo un jour. Donc j'aimerais que le MIFA nous aide à pouvoir être en contact avec ces banques-là qui peuvent nous financer. Pourquoi pas avoir un jour 2000 hectares, 10 000 hectares cultivés. Et puis qu'on nous mette en relation avec les assurances. Parce que les intempéries aujourd'hui font beaucoup de dégâts. Donc si on n'arrive pas à récolter comme il faut, que ces assurances-là nous couvrent.
En ce qui concerne l'assurance, la compagnie World Cover se propose d'accompagner les agriculteurs. World Cover dispose d'une assurance agricole basée sur le risque de sécheresse. Kossi Agbedi de World Cover.
World Cover, nous travaillons avec les paysans qui veulent assurer leur culture contre la sécheresse, parce que notre seule garantie, c'est la sécheresse. Nous travaillons à base d'un satellite agricole. Et donc, le satellite s'auto-saisit pour localiser en termes de pluviométrie s'il y a pluie dans une zone ou non. Donc, ce n'est pas le paysan qui viendra vers nous pour dire que dans ma localité, il n'y a pas de pluie. Le paysan paie de l'assurance à 5 000 francs minimum pour garantir son champ de maïs. Et donc, lorsqu'il n'y a pas eu pluie, il est dédommagé à hauteur de 25 000 francs. C'est-à-dire le capital assuré multiplié par 5.
La finalité du MIFA est de pouvoir contribuer à la réduction de la pauvreté, nous dit Simon Tebaema, coordinatrice financière du MIFA.
Nous avons remarqué que nos exploitants essaient tant bien que mal de sortir de la pauvreté, mais c'est en fait un serpent qui se mord la queue. Alors le mécanisme MIFA, c'est de mettre ensemble tous les acteurs d'une chaîne de valeur, mais en commençant par un marché. Donc le producteur va avoir accès au marché et il va vendre à un prix qui lui permet de lui assurer un revenu. Et donc, par ricochet, la pauvreté va reculer.
Pour sa phase pilote qui s'étendra sur 3 ans, le MIFA ne prendra en compte que 3 filières que sont le maïs, le riz et le manioc. Le MIFA qui veut porter le financement du secteur agricole par les banques à hauteur de 5% à l'horizon 2027 dispose d'un fonds d'amorçage de 100 millions d'euros. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.